Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Les pauvres, personne n'a envie d'être pauvre. Du coup, on les regarde souvent avec méfiance, parfois avec compassion, exceptionnellement, tout à fait normalement. Dans les premiers siècles de l'Église, les chrétiens se faisaient remarquer de leurs concitoyens parce qu'ils prenaient soin des pauvres, de tous les pauvres. Remarquable, me direz-vous. Et si le christianisme proposait d'aller encore plus loin, s'il était plus révolutionnaire qu'on ne croit, jusqu'à reprendre le drapeau de la pauvreté, comme l'avait lancé le pape François, considérant que les communistes l'avaient volé à l'Église et qu'il était temps de le reprendre. Une émission Vivante Église ce matin, donc Diaconie, un trésor à redécouvrir, avec autour du plateau Marie-Yvonne Caillot, qui est volontaire à TD Quart-Monde, que l'on va joindre dans un instant. Sébastien Combre, qui est responsable de la diaconie pour le diocèse de Toulouse, bonjour.
Bonjour.
Bernard Satin, qui est membre du service de la diaconie pour le diocèse d'Annecy, que l'on joindra un petit peu plus tard. Christophe Hémeau, qui est responsable de la pastorale des migrants pour le diocèse de Toulouse, bonjour.
Bonjour.
Et Anne-Marie Borès, qui est membre du groupe Place et Parole des Pauvres, bonjour.
Bonjour.
Voilà, on me fait signe que Marie-Yvonne Caillot n'a pas été encore joint, mais ça ne saurait tarder. Le propos de cette émission est donc de faire découvrir ou redécouvrir la diaconie. Comment vous commenceriez par présenter, Sébastien, ce qu'est la diaconie? Qu'est-ce que ça veut dire que ce gros mot?
Donc la diaconie, c'est... Déjà, c'est pour tous. C'est pas quelque chose qui est réservé à certains. C'est permettre de mettre les plus pauvres au centre pour rejoindre tous les chrétiens. On parle de service du frère. Et puis la diaconie, c'est forcément en lien avec les trois autres piliers de l'Église, qui sont la diaconie, qui est aussi la célébration et la proclamation de l'Évangile.
Voilà, ça a toujours existé dans l'histoire de l'Église.
Ah oui, ça a toujours existé. Depuis le premier à avoir fait de la diaconie, c'est le Christ. Et ensuite, tous les chrétiens ont suivi. Il a fallu, à la suite des siècles, traduire la diaconie comme on a traduit la célébration et la proclamation de la parole avec l'air du temps. Et aujourd'hui, effectivement, on redécouvre quelque chose de la diaconie. Pourquoi un trésor à redécouvrir? Je trouve que c'est un très bon titre. J'aurais pas fait mieux. Et c'est quelque chose qu'on redécouvre aujourd'hui quand même très fortement, parce que on l'avait un peu oublié ou mis de côté ou traduit d'une façon un peu différente. Il y a quelque chose qu'on retrouve surtout de la réciprocité. C'est-à-dire que les dernières décennies, la relation avec les pauvres, l'Église a toujours eu des relations avec les pauvres, mais qui était plutôt une relation descendante, j'ai quelque chose à donner et je donne, il y a quelqu'un qui reçoit et quelqu'un qui donne. Là, on redécouvre quelque chose de la réciprocité, on redécouvre Matthieu 11, 25, ce que tu as caché aux sages et aux savants, c'est aux petits que tu l'as révélé. Donc les pauvres ont quelque chose à nous révéler du visage de Dieu.
Alors Marie-Yvonne Caillot, on a réussi à vous joindre, bonjour.
Oui, bonjour.
Voilà, vous êtes membre du Conseil National de la Diaconie, vous êtes par ailleurs volontaire à TD Quart-Monde, on expliquera un petit peu ce que ça veut dire, et vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui est paru aux éditions L'Harmattan, qui s'appelle « Comme des orpailleurs, de la misère à la pauvreté, les relations comme chemin de libération ». Sébastien nous a présenté brièvement ce qu'est la diaconie, qu'est-ce que vous apporteriez comme complément, ou selon vous, qu'est-ce que la diaconie ?
Non, c'est ce que j'ai entendu là, de ce que Sébastien disait, c'est tout à fait ça. La diaconie, en fait, c'est le service. Et le service à la manière de Jésus, tel que Jésus nous l'a vécu, tel que ça nous est raconté dans les évangiles. Par exemple, dans le lavement des pieds, Jésus qui nous dit « Faites comme j'ai fait ». Voilà. La diaconie, elle s'enracine complètement dans le mystère du Christ. Voilà. Et ceux qui sont appelés par lui doivent suivre le même chemin que celui qu'il a suivi. C'est-à-dire un chemin de relation au Père, de prière, mais aussi de service.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être la manière dont ça s'est vécu dans l'Église ? Parce que, à vous entendre, en fait, il suffit d'imiter le Christ et d'être fidèle à ses paroles. Même chose, du coup, est-ce que d'une certaine manière, la diaconie, c'est juste quoi, la bonne traduction la bonne incarnation de ce que le Christ a appelé à vivre ? Ou est-ce que, comment ça s'est vécu un petit peu dans l'histoire de l'Église ?
Mais ça a toujours été présent dès le départ. Et quand on voit la façon dont Jésus a agi, c'est que il a voulu rassembler son peuple. Et la façon dont il l'a rassemblé, c'est qu'il a commencé par rassembler les pauvres, les petits, les exclus, ceux dont on pensait qu'ils étaient insignifiants. C'est vers cela qu'il s'est tourné en premier. Et c'est ceux-là qui sont devenus le cœur de la communauté. Et en fait, l'Église l'a toujours compris. Toujours, elle s'est tournée vers les pauvres. Ce qu'il y a, c'est la façon dont on le vit et dont on travaille et dont on essaye de le comprendre, recomprendre aujourd'hui, parce que, comme Sébastien le disait, l'Église a toujours été diaconiale. Sans ça, ça n'aurait pas été l'Église. Mais c'est qu'aujourd'hui, on redécouvre que les pauvres, ils sont le fondement de l'Église. Sans les pauvres, il n'y a pas d'Église. Jésus nous dit que ce sont eux qui vont nous révéler les mystères du royaume. Si on n'a pas leur parole, on risque fort de se perdre. Ce ne sera pas l'Église de Jésus. Puisque Jésus, c'est dans le plus pauvre, le plus petit, le plus exclu, le plus insignifiant, celui dont on pense qu'on n'a pas grand-chose à attendre, qui est vraiment la pierre fondamentale.
Alors Marie-Yvonne Caillot, vous êtes par ailleurs volontaire à Télécarmonde, si j'ai bien compris,
oui.
À votre mari depuis 1982, donc ça fait 35 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça signifie d'être volontaire à Télécarmonde et quelle est votre vie ?
Être volontaire à Télécarmonde, ça signifie rejoindre un mouvement qui s'appelle le mouvement ATD Carmonde, qui a été fondé par Joseph Brzezinski.
Fondateur d'ATD.
Comment ?
Fondateur d'ATD Carmonde, si on fait très très court.
Voilà. Et essayer de mettre sa vie au service le temps où on y est. Hein, on n'a pas d'engagement dans la durée. Mettre toute notre vie au service des plus pauvres. Et avec cette conscience que le plus pauvre, on ne l'a jamais rejoint. Voilà. Et on rejoint des personnes qui vivent des situations de grande fragilité, de grande précarité, des cumuls, des gens qui se retrouvent en dehors de la société, qu'il nous faut aller rejoindre. Et ensemble, on ira rejoindre encore plus pauvres. C'est une sorte de dynamique de chemin, en fait. Voilà.
Sébastien,
de manière à petit à petit rompre le cercle de l'exclusion. Si l'exclusion existe, c'est parce qu'il y a, il y a des gens qui excluent.
Sébastien, est-ce que vous pouvez apporter quelques précisions sur le volontaire ATD, j'aimerais dire, de manière plus pratique ? Comment vivent ces personnes ? Est-ce qu'elles touchent un salaire ? Si oui, quel est-il ? Peut-être vous ferez part de votre expérience, mais un peu plus tard. Donnez juste le cadre pour ceux qui sont loin de... ne connaissent pas bien.
Alors, moi, je ne suis pas volontaire à ATD, hein. Moi, je suis volontaire à La Bonne Nouvelle, ce qui est un peu différent. Donc, la question, c'est...
La question, c'est plus pratiquement, parce que Marie-Yvonne Caillot nous a décrit l'esprit de la vie, mais comment vivent concrètement ces personnes ? Est-ce que, dans ces cas-là, je ne sais pas, vous me disiez, en fait, hors antenne, qu'on vit avec un SMIC ou moins, on vit dans les quartiers difficiles, qu'est-ce qu'on fait pendant la journée ?
Je crois que l'idée, c'est d'être présent où on est présent, d'être présent dans les quartiers où les pauvres sont présents et de vivre sa vie. Moi, il y a une phrase que le journal d'ATD, il y avait une petite image où il y a un volontaire qui se présentait devant des habitants et les habitants disaient « Alors, c'est quoi ton projet ?» Et le volontaire disait « Mon projet, c'est d'avoir des projets avec vous. » Voilà. Donc l'idée, c'est de ne pas venir comme des conquérants avec des projets qui sont tout faits, mais venir avec une conviction. La seule conviction que l'on puisse avoir, c'est tu as quelque chose à m'apprendre, et avec toi, on va pouvoir construire la vie de la cité, on va pouvoir construire un projet, mais ce projet, il va venir de toi, et c'est toi qui vas le mettre en place. Moi, je suis un catalyseur, si on veut, quelque chose comme ça.
Marie-Yvonne Caillot, du coup, vous vous êtes installée à quel endroit, en fait, avec votre mari? Quelle est un peu votre réalité de vie quotidienne?
Oui, aujourd'hui, nous habitons dans le 19e arrondissement, voilà, logement social.
19e arrondissement de Paris?
De Paris, oui. Et voilà, et on vit, voilà, une vie simple avec les gens, avec cette attention particulière, justement, aux gens qui sont dans le quartier, plus à l'écart, plus en difficulté, et en essayant d'aller au-devant d'eux, de les rejoindre, de créer une relation avec eux.
Alors, vous avez écrit donc un ouvrage qui s'appelle « Comme des orpailleurs, de la misère à la pauvreté, les relations comme chemin de libération ». Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel était le principal propos de votre ouvrage? J'ai cru comprendre que, comme son nom l'indique, vous, fort de votre expérience, vous redites des vérités en fait qui paraissent toutes simples, mais qui sont pourtant extrêmement fondamentales pour la vie, on va dire, en société ou la vie de l'Église. C'est la relation qui guérit et pour, enfin, qui guérit les personnes pauvres. Est-ce que vous pouvez expliciter votre propos?
Oui, oui. En fait, ce livre, c'est le fruit d'un travail de recherche que j'ai fait avec un groupe de volontaires permanents du mouvement Tédé Carmon pour mieux comprendre comment on se formait, voilà, comment on apprenait avec les personnes très pauvres qu'on rencontre, comment ça se passe. Et donc, j'ai choisi comme axe de recherche qu'est-ce qui permet aux personnes de se remettre debout? Comme certains l'ont dit, de passer de l'ombre à la lumière, de passer de la honte à la fierté, de passer de l'isolement aux relations possibles. On voit la misère, le plus grand drame de la misère, c'est que d'abord ça produit une très très grande souffrance, mais surtout les personnes se retrouvent exclues socialement. Se retrouvent toutes seules. Elles n'ont plus de relation qu'avec les gens qui leur ressemblent, qui sont comme eux. Et petit à petit, même, plus de relation du tout. Et j'ai voulu comprendre avec les personnes qu'est-ce qui permettait de se remettre debout. Eh bien, c'était évident que ça passait toujours par des rencontres et des relations. Et des relations de bienveillance, des relations de reconnaissance, des relations qui redonnent de la dignité à la personne. Voilà.
À ce sujet, vous parlez aussi de l'importance du regard. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cela?
Oui, c'est-à-dire que souvent, les personnes qui sont en grande précarité, elles sont vues à travers leur manque, à travers aussi l'incohérence des actes qu'elles posent, à travers leurs difficultés, à travers même leurs souffrances. Et l'élan, il est d'essayer de soulager tout ça. Et on oublie que ces personnes, elles sont habitées de richesses et que la vie, elle ne peut être faite que de partage. Et donc, si on regarde les personnes comme des personnes qui auront quelque chose à m'apprendre, quelque chose que moi je ne sais pas et qu'elles vont me révéler. Du coup, mon regard et ma façon d'être avec ces personnes va changer parce qu'elle va être tournée vers l'espérance, vers l'attente. Et du coup, il y a tout un jeu de qui va se passer entre la personne et nous et qui va nous transformer. Ce qui est assez extraordinaire, c'est quand on rentre dans une relation de ce type, c'est que on est transformé mutuellement. Mais c'est tout un travail à faire, évidemment, parce que la misère abîme énormément les gens, et il y a tout un travail sur son propre regard à faire pour essayer de voir la grandeur des gens et pas arrêter notre regard à ce qu'elle nous montre d'elle-même, qui est souvent une humanité abîmée, une humanité blessée.
Marie-Vonne Caillot, vous me disiez aussi en préparant l'émission que même si la diaconie a toujours existé dans l'Église, il y avait donc un mouvement, on va dire récent dans l'Église, qui a eu son point d'orgue à l'occasion de Diaconia 2013. On va en parler dans quelques instants, mais qui a eu une sorte de mouvement préparatoire. Voilà, et il y a des un peu aux quatre coins de la France des gens qui ont essayé de vivre comme vous au sein des volontaires à TD Quart-Monde ou ailleurs, et des groupes se sont constitués, des groupes entre autres de partage, de discussion ou de partage de la parole. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce, cette petite, ces mouvements qui ont préparé Diaconia 2013?
Oui, en fait, comme on le disait au départ, l'Église a toujours été diaconiale, a toujours voulu se mettre au service des pauvres, des exclus. Il y a toujours eu des chrétiens qui se sont portés auprès des personnes les plus marginalisées, les plus exclues, toujours. Et depuis, et l'Église a comme ça développé beaucoup d'actions humanitaires pour soulager justement la souffrance.
Mais ma question, c'était ce mouvement qui s'est initié avant Diaconia.
Depuis quelques temps, par des biais divers, sont nés en France des groupes, des personnes qui ont eu le souci de pas seulement combler les manques justement des pauvres en leur donnant à manger, un logement ou tout ce qui manque, mais aussi en leur permettant de nourrir leur vie spirituelle, en leur permettant elles aussi de pouvoir avoir accès à la parole de Dieu, si la parole de Dieu est une parole libératrice, si l'évangile est une parole libératrice, eh bien les pauvres en ont besoin, sont les premiers qui en ont besoin, et donc des personnes diverses dans divers lieux de France ont commencé des groupes de partage d'évangiles avec des personnes pauvres. Comme ça sont nés le Chemin d'Espoir, qui est tout un réseau, le Sapel, qui est plus d'inspiration de Joseph Rezinski, La Bonne Nouvelle, La Pierre d'Angle, et d'autres réseaux, les Rencontres Fraternelles à Lyon, voilà. Et en 2005, à l'occasion d'un rassemblement organisé par le Secours catholique pour les 50 ans de la cité Saint-Pierre, ces groupes se sont retrouvés et ont vécu un grand moment de fête, de joie, de partage ensemble, et ont décidé de continuer à cheminer ensemble pour s'apprendre, se soutenir, exister ensemble. Et de là est né le réseau Saint-Laurent, et puis toute l'histoire après.
Voilà l'histoire qu'on racontera. On va faire une première pause. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Comme des orpailleurs de la misère à la pauvreté, les relations comme chemin de libération. Ouvrage paru aux éditions L'Harmattan. Merci beaucoup Marie-Vonne Caillot. On fait une pause et puis on va parler de Diaconia 2013, de la manière dont la diaconie essaye de se vivre dans certains diocèses, entre autres donc dans le diocèse d'Annecy ou à Toulouse. Et puis après, on donnera la parole à l'un ou l'autre témoin autour de ce plateau qui nous disent comment ils ont le sentiment de faire de la diaconie, comme dit Sébastien Combe, comment on fait de la prose, comme Monsieur Jourdain, sans s'en rendre compte, ou comment on est petit à petit transformé par cette réalité.
Plaisance, à Bagnères-de-Bigorre, 88.9.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église ce matin, donc Diaconie, un trésor à redécouvrir, avec autour du plateau, alors il y avait au début de cette émission Marie-Yvonne Caillot, membre du Conseil National de la Diaconie, auteur d'un ouvrage, je donnerai le titre de l'ouvrage à la fin de l'émission, Sébastien Combe qui est responsable de la Diaconie pour le diocèse de Toulouse, Bernard Satin qui est membre du service de la Diaconie pour le diocèse d'Annecy, qui nous a rejoint, Christophe Hémeau, lui de la pastorale des migrants pour le diocèse de Toulouse, et Anne-Marie Borès qui est membre d'un groupe qui s'appelle Place et Paroles des Pauvres, on en parlera un peu plus tard dans l'émission. Sébastien, c'est vous qui m'avez incité à appeler Marie-Yvonne Caillot. Maintenant qu'elle est partie, vous pouvez faire quelques compliments à son sujet. Vous me disiez, pour vous, c'est comme une Geneviève Antonioz de Gaulle qui s'ignore. Alors allez-y, faites-lui des compliments voilà. Maintenant qu'elle n'est plus là.
Il faut faire attention avec les journalistes à tout ce qu'on dit en off.
Non, mais oui. Pour mettre peut-être en perspective ses propos, son engagement, c'est...
Oui, voilà. Je ne sais pas si elle m'écoute, mais c'est quelqu'un qui effectivement j'admire beaucoup, qui a un engagement qui m'éclaire. Enfin, je me dis que quand j'arriverai à son âge, je serai heureux d'avoir la vie et l'engagement qu'elle a eu et puis les fruits que ça a apporté. Je crois que ceux qui œuvrent pour la diaconie depuis très très longtemps sont des gens qui font leur trou quelque part, qui sont sur leur lieu et qui creusent, et au début c'est aride et puis petit à petit la source jaillit et puis l'eau devient
abondant.
Des gouttes d'eau, puis ça fait des ruisseaux, puis ça fait des rivières, quoi. Moi, je me sens un héritier de ces gens-là qui se sont engagés avant moi.
On peut dire que c'est dans la suite de Joseph Brzezinski. Enfin, l'impression tout que c'est fait. Un peu un père pour vous tous, hein.
Ah, oui.
Alors,
oui,
vous pouvez
tout à fait.
Quelques mots, peut-être Joseph Brzezinski. Vous l'avez fait plusieurs fois cette antenne, mais c'est.
Joseph Brzezinski, je ne l'ai pas connu, mais je le connais comme un enfant connaît son grand-père qu'il n'a pas connu. Si vous voulez, ça fait partie de l'histoire familiale.
Les
anecdotes.
Votre
etc.
grand-père, du coup.
Mon grand-père, Joseph Brzezinski, que je n'ai pas connu, c'est quelqu'un qui est jeune, a vécu des galères, qui a découvert de l'intérieur ce qu'était la honte et l'exclusion, notamment sa mère, qui a été obligée de vendre le piano, son piano, parce que sinon les gens ne voulaient plus lui faire l'aumône, parce qu'on lui disait, elle a un piano, elle n'a pas besoin de manger, enfin, elle n'est pas vraiment pauvre. Donc elle a compris la honte que ça procurait d'être pauvre, quoi. Il a compris vraiment ça en profondeur. Et quand je crois qu'il avait une cinquantaine d'années, il a découvert, on l'a envoyé dans un camp à Noisy-le-Grand, dans un bidonville. Il a dit, j'ai enfin découvert mon peuple. Il était prêtre, il a été envoyé comme prêtre par son évêque qui lui a dit, bon, bah, tu tiens 2 mois, 3 mois, tant que tu peux, tu feras l'affaire, et puis après j'enverrai quelqu'un d'autre. Et puis il y est resté toute sa vie. Et il a permis à des gens de sortir de la misère par la construction de projets qui leur étaient proches. Il a commencé par le ménage dans tout ce qui était assistance, en disant, ben, c'est quand on vous apporte la soupe populaire, c'est de la honte qu'on vous offre. Vous devez travailler. Il a construit un foyer familial, notamment avec des. Il y a une esthéticienne qui est venue dans un camp à Noisy-le-Grand, dans un bidonville au milieu de la boue. Une esthéticienne qui est venue pour maquiller, coiffer les femmes qui ont changé leur regard sur elles-mêmes. Et bon, voilà, on le dit hein, souvent dans l'humanitaire, c'est en changeant les femmes par les femmes qu'on arrive à changer tout un peuple.
Joseph Brzezinski, donc, qui est d'une certaine manière le fondateur d'ATD Quart Monde.
Tout à fait, oui. Quoi.
Alors, parlons un petit peu de Diaconia 2013. Marie-Yvonne Caillot en a parlé rapidement. Tous ces petits ruisseaux qu'elle décrivait, qui ont donné des rivières, ont abouti comme un début de fleuve au cœur de l'Église de France, qui est donc Diaconia 2013. Pour ceux qui n'ont pas participé à cet événement, dites-nous en quoi il consistait, pourquoi il était si important pour l'Église de France.
Oui. Alors, on parle d'événement. Effectivement, un événement, c'est quelque chose où il y a un avant et il y a un après. Et je crois qu'il y a un avant Diaconia 2013 et il y a un après Diaconia 2013. Pas forcément pour les groupes du réseau Saint-Laurent, dont parlait Marie-Vonne tout à l'heure, qui œuvraient pour la diaconie depuis longtemps, et qui, lors de ce rassemblement, se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas seuls. Et puis ceux qui avaient cet espoir d'une église diaconale plus profonde, quoi, d'une église où les pauvres étaient présents au centre, où chacun avait quelque chose à s'apporter, où tout le monde avait sa place, etc. Eh bien, ça a ouvert les yeux. Et ils ont pu se dire, bah oui, si, c'est possible, c'est possible.
Qu'est-ce qui s'est passé, Sébastien?
C'est difficile à dire pour ceux qui n'étaient pas là. C'est pour ça.
Quand même l'effort parce que tout le monde n'y a pas été.
C'était
un grand rassemblement à Lourdes.
C'était un rassemblement. Il y avait 17 000 personnes. Il y avait donc des gens qui vivaient des galères. Oui, voilà.
Ouais, Christophe Aymon est prêt à vous aider. Alors allez-y, voilà, Christophe Aymon.
Je vais.
Diaconia 2013 pour les nuls.
Voilà, pour les nuls. C'est 100 mouvements qui se sont retrouvés à Lourdes. Voilà, c'est 100 mouvements qui représentent une vie d'église. Comme dit Sébastien, peut-être une vie pas unie, mais Diaconia a permis justement de se rendre compte que l'Église était faite de riches et de pauvres, et qu'on avait ensemble à œuvrer, à faire découvrir ce service du frère, tous ensemble, et apporter une joie de l'Évangile.
Et il y avait aussi donc de nombreux évêques, de nombreux diocèses. Ça a été l'occasion en fait pour toute l'Église de France d'entendre la parole des pauvres, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Et la place qu'il prenait dans certains mouvements d'église, comme ayant valeur d'exemple d'une certaine manière.
Oui, c'est ça. Je crois que dans la réussite d'un événement, il y a moi ce que j'appelle le casting et le programme. Le casting, c'est-à-dire les gens. On a réuni des gens qui venaient de différents groupes qui vivaient des galères et des responsables de diaconie, des responsables de la catéchèse, des responsables de diocèse. Ça, c'est au niveau du casting. Et après, au niveau du programme, on a fait que, eh bien, les uns et les autres avaient quelque chose à s'apporter et que on a inversé la logique qui normalement c'est ceux qui sont responsables en catéchèse, ceux qui sont responsables évêques, etc., qui ont quelque chose à dire. Et là, c'était l'inverse en fait à Diaconia 2013. Ce qui fait que les gens ils se sont dit on a vraiment tous quelque chose à apprendre. Et ça s'est terminé. Le message final commençait par personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à donner.
Alors Bernard Satin, dans le diocèse d'Annecy que vous représentez donc à cette antenne, ce grand rassemblement Diaconia 2013 a eu une suite importante, puisque votre évêque n'était pas à Diaconia, mais vous m'avez dit qu'en fait, au vu des témoignages des gens qui étaient allés de retour dans votre diocèse, il a tellement été frappé qu'il vous a demandé d'organiser quasiment l'équivalent ou presque dans le diocèse. Racontez-nous cette aventure.
Oui, alors effectivement, nous sommes partis à 115 hein, du diocèse d'Annecy, avec à la fois des groupes de personnes connaissant la galère, migrants, secours catholique, personnes handicapées, et puis un certain nombre de personnes des paroisses. Et quand nous sommes revenus, nous avons été débriefés par notre évêque, et au vu de ça, effectivement, il nous a dit « je souhaite que l'équipe diaconiale organise pour le diocèse d'Annecy une rencontre en octobre 2014 ». Et donc on a monté une journée diocésaine qui a réuni 2500 personnes du diocèse autour de, j'allais dire, des mêmes fondamentaux de Diaconia. C'est à la fois vivre un temps de fraternité et surtout se mettre à l'écoute de ceux qui n'ont pas la parole dans la société et dans notre église. Et puis en même temps, révéler, parce que voilà, il se vit déjà beaucoup de choses, révéler ce qui se vit dans notre diocèse. Et donc on a vécu cette journée très, de façon très, très, très riche, avec beaucoup de témoignages divers et variés de gens qui effectivement d'habitude sont peu mis sur le devant de la scène, aussi bien des chômeurs que des gens du voyage, des migrants, des jeunes de la JOC, des handicapés, montrant toute la place des plus fragiles et reprenant fortement le slogan « Nul n'est trop pauvre » que vous citiez tout à l'heure, « Nul n'est trop pauvre pour n'avoir rien à partager », mais aussi « Nul n'est trop riche pour n'avoir rien à recevoir ».
Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça a transformé ou ce que ça commence à transformer dans votre diocèse ? J'ai cru comprendre que les orientations pastorales de votre évêque en étaient aujourd'hui un peu inspirées. Voilà, c'est une forme de, comment dire, de retournement de fond. Vous avez l'impression, qu'est-ce que vous diriez des suites de ça?
Je reprendrai volontiers. En septembre 2016, notre évêque a écrit une lettre intitulée « La joie de servir la diaconie diocésaine ». Donc, c'était effectivement deux petites années après, pour rebooster, nous disant bien quelque chose a bougé dans nos têtes et dans nos cœurs. Les fruits de ce rassemblement ne sont pas quantifiables, mais on peut les observer, car il s'agit d'une attitude de cœur, une façon d'être qui touche tous les domaines de notre vie en Église. Et c'est vrai que ça a fait bouger, je pense, les têtes. C'était le premier rassemblement où on se retrouvait autour de table, où il y a eu des temps de partage en fraternité, de réaction par rapport au témoignage, et non pas, j'allais dire, un grand amphi, voilà, comme sont souvent peuvent l'être des rassemblements diocésains.
Est-ce que vous pouvez nous parler de 2-3 déclinaisons, peut-être, qui aujourd'hui sont déjà le signe de ce mouvement? Vous m'aviez parlé de maison des familles, d'appartements relais, ou d'un rassemblement qui a lieu qui s'appelle Cap sur la vie.
Voilà, alors différents éléments, des choses très concrètes au niveau de paroisses qui avaient des locaux de presbytère qui étaient disponibles, hein, qui a été transformé en lien avec le Secours catholique pour monter des appartements relais pour des familles qui vivent en situation de précarité. D'autres, effectivement, sur une autre paroisse, hein, une maison des familles qui a été ouverte il y a deux petites années par Apprenti d'Auteuil, le Secours catholique en lien avec la paroisse, pour... je dirais aider des familles en précarité, en difficulté autour de la parentalité, et puis des démarches qui se développent autour de l'accueil des migrants, et puis plus récemment, au mois de d'octobre 2017, un rassemblement, j'allais dire, dans le même esprit, mis en place par la pastorale des handicapés, qui s'appelait Cap sur la vie avec nos fragilités. Et là aussi, c'est bien les personnes vivant des situations de handicap qui étaient mises au centre, qui ont apporté des témoignages, à partir desquels chacun a pu réagir à la fois sur les témoignages et en quoi cela le rejoignait dans sa propre vie, et j'allais dire dans ses propres fragilités, car la fragilité, c'est pas réservé à quelques-uns, c'est bien chacun d'entre nous qui porte ses propres fragilités.
Alors Sébastien Combe, maintenant on va parler un petit peu du diocèse de Toulouse, vous allez nous parler aussi de quelques illustrations. Vous avez l'habitude de dire, Marie-Yvonne Cailleux, je crois déjà, l'a dit tout à l'heure, que la diaconie, c'est donc pas faire pour, mais avec, et vous ajoutez même, vous, à partir des plus pauvres. C'est un peu ce qu'on a entendu dans les propos de Marie-Yvonne. Est-ce que c'est ce que vous essayez, c'est un peu quelque part votre charte, comme nous on a une charte éditoriale, de la diaconie dans le diocèse de Toulouse, qu'est-ce que vous diriez un petit peu de la... En journalisme, on appelle ça la baseline. Mais bon, vous appelez ça comme vous voulez.
Voilà. Oui, ben c'est ça, c'est faire une église à partir des plus pauvres. Ben, parce que, comme disait Marie-Yvonne, le plus pauvre, on l'a jamais vraiment rencontré. Le plus pauvre, on l'a pas rencontré. On rencontre des gens qui vivent des galères. Et ces gens qui vivent des galères peuvent nous permettre de rencontrer encore plus pauvres, qui eux peuvent nous permettre de rentrer encore plus pauvres. Et en fait, la diaconie est une dynamique. Une dynamique vers la rencontre de celui qui n'est pas encore là. C'est pour ça qu'on parle de faire église à partir des plus pauvres. Parce que si on fait église avec les plus pauvres, on en oublie encore. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas là. L'église diaconale est en lien aussi avec l'évangélisation et la nouvelle évangélisation. Moi, dans ma lettre de mission, diaconie et nouvelle évangélisation sont en lien.
Alors, qu'est-ce qui se vit dans le diocèse de Toulouse? Est-ce que vous avez des illustrations comme ça?
Voilà, alors, la diaconie, elle ne doit pas être... ça ne doit pas être des actions spécifiques qui sont spécifiques
c'est d'abord un état
etc.
d'esprit.
C'est un état d'esprit, c'est une façon de vivre la proclamation de la parole, permettre dans une paroisse à ce qu'une personne aveugle puisse lire. Par exemple, lire la parole de Dieu, etc. Ça s'est fait à Pibrac. Ça a énormément touché les gens. Cependant, il y a besoin de signes. Aujourd'hui, il y a besoin de signes pour montrer que cette dynamique, elle progresse, et pour ouvrir les yeux à certains. Parce que, de toute manière, la diaconie, ça doit se vivre. Voilà, on peut pas en parler. Là, on en parle, mais on en parle pour vous inviter à la vivre dans les lieux où ça existe. Alors, vous m'aviez demandé de présenter des exemples. Je pensais à l'assemblée de la diaconie qui a lieu deux fois par an, et j'ai pensé aussi aux maisons de la fraternité qui se sont ouvertes après Diaconia 2013. Alors il y en a deux sur notre diocèse. Hein.
Qu'est-ce que c'est, les maisons de la fraternité ?
Ce sont des lieux. Alors c'est pas une maison construite, c'est une salle hein, en fait. C'est une salle qui est ouverte. Donc il y en a une à l'Union à Saint-Jean et une à Saint-Alban. Elles sont ouvertes, il me semble, les samedis sur l'après-midi et c'est un lieu ouvert d'accueil de tous et particulièrement des plus petits. Et c'est là, donc ce sont des lieux qui sont en lien avec la paroisse où ils cherchent à inviter ceux qui sont les plus isolés. Et donc et puis parfois il y a des journées à thème. Voilà. Donc il y a tout un groupe là. Enfin il y a deux groupes là.
C'est deux réalités. C'est un lieu d'accueil à l'échelle d'une paroisse, c'est ça en gros.
Voilà, tout à fait, ouais, tout à fait. Mais qui oriente leur accueil sur les gens qui ont vécu des galères, qui se disent mais comment faire pour les rejoindre, qui sont toujours dans cette dynamique de se dire ben c'est bien là, on réunit quelques personnes, mais il y en manque et on va à la rencontre.
Et encore faut-il dans ces lieux avoir quelque chose à recevoir. Parce que des moments pour accueillir les personnes les plus pauvres dans les paroisses, ça a toujours existé. À vous entendre, en fait, dans la diaconie, il y a plus que ça. Il y a d'accepter un échange, d'accepter de recevoir de ces personnes.
Oui, tout à fait.
Je sais pas ça.
Mais la réalité aujourd'hui de nos communautés paroissiales du rassemblement dominical, cette réciprocité est compliquée aujourd'hui. Hein, même pour nous qui participons à la messe, on reçoit et on donne peu. Là, c'est un lieu où on échange. Voilà, il y a un partage fraternel et il y a pas voilà, c'est à la mode en ce moment, il y a pas d'accueillant, enfin je veux dire, il y a pas de je te donne, de je reçois, il y a une relation qui se vit autour d'un café, d'une discussion, d'une écoute et puis on s'enseigne les uns les autres finalement. Voilà. Donc il y a eu des thèmes sur la souffrance au travail, finalement. La souffrance au travail, on se rend compte que c'est plus large, ça passe de la souffrance dans notre état de vie, et que des gens qui sont pas au travail sont aussi en souffrance de devoir aller chercher soit les allocations, soit l'assistance Resto du Cœur, etc. Il y a cette souffrance-là, et ça se partage, et on se rend compte que finalement, on a les uns et les autres ont quelque chose à partager.
L'autre exemple que vous voulez citer, c'est donc les assemblées diocésaines de la diaconie.
Les assemblées diocésaines de la diaconie. Alors, je l'ai dit plusieurs fois aujourd'hui, il me semble que la diaconie, il faut que on peut pas en parler, il faut le vivre. Et le rassemblement qu'on nous a parlé, là, dont on nous a parlé tout à l'heure dans Bernard Satin, oui. Je crois que c'est une très très bonne initiative de se dire que de toute manière, il faut. Diaconia 2013 a impulsé des choses dans l'esprit, dans le cœur et dans l'intelligence des gens. Il faut que ça rayonne et qu'on fasse des rassemblements maintenant diocésains, et de ces rassemblements diocésains, des rassemblements paroissiales, et puis après des rassemblements dans les petits groupes qui sont en lien avec les paroisses. Il faut que ça
Voilà, il faut que ça soit contagieux.
Voilà, il faut que ça soit contagieux, voilà. Et donc, les assemblées de la diaconie permettent ça. Deux fois par an, on se rassemble sur le même modèle que Diaconia 2013, mais en réduit, quoi, quand même, parce qu'on est une centaine. Cette année-là, il y en a une samedi, là, à Bazièges, à 10h, pour tous ceux qui le veulent, et puis il y a un bus qui part à 9h30. De deux rues.
On donnera les infos à la fin.
Donc, donc tout à l'heure je disais casting et programme. Le casting, c'est des gens qui ont vécu des galères, qui vivent des galères, et puis des responsables d'associations, de mouvements, de paroisses, des prêtres, notre évêque qui est présent aussi, voilà, qui partagent un moment de fraternité, donc autour du repas, autour de moments conviviaux, mais de réflexion et de prière. Voilà, et partage de la parole aussi. Voilà, sur une journée.
On va faire une deuxième pause musicale et puis on va retrouver nos derniers invités qui vont illustrer ce que cette réalité, la diaconie, peut avoir comme incidence dans notre vie à chacun. We'll be right back.
présence à Castelsarrasin, 93.3. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Diaconie, un trésor à redécouvrir, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église ce matin, avec, je vous rappelle, autour du plateau, entre autres, Sébastien Combe, responsable de la diaconie pour le diocèse de Toulouse, il y avait Bernard Satin pour le diocèse d'Annecy, et Christophe Hémeau, donc, qui lui est engagé dans la pastorale des migrants, et Anne-Marie Borès, qui est membre d'un groupe Place et Parole des Pauvres. Alors, en cette fin d'émission, on va vous donner la parole, Christophe et Anne-Marie Borès, pour nous montrer, on va dire, vous êtes nos témoins, ce que cette diaconie peut travailler à transformer dans les cœurs et au-delà. On va commencer avec vous, Christophe Hémeau. Donc vous êtes responsable de la pastorale des migrants. Le propos, ce serait d'abord de vous présenter en quelques mots. Voilà, vous êtes, on va dire, un des monsieur migrants du diocèse. Et à titre personnel, vous êtes engagé donc dans cette responsabilité depuis 6 ans. Et à titre personnel, vous accueillez chez vous, c'est ce que vous me disiez en préparant l'émission, depuis des années, des migrants, il y a toujours des migrants chez vous, c'est ça? Racontez-nous un tout petit peu peut-être le pourquoi de cette attention aux migrants.
Tout à fait, il y a toujours eu des migrants à la maison. Peut-être que la définition qu'on donne aujourd'hui de la diaconie, je la vivais sans trop savoir y mettre du sens ou une définition, oui. Mais je dirais que c'est vivre la fraternité au quotidien, et cette fraternité, je la vis à travers l'évangile, mes engagements en paroisse, et puis au niveau du diocèse, mais surtout en paroisse, c'est ce qui a été moteur en famille, parce que c'est quand même une décision en famille d'accueillir un étranger, puis on a toujours cette fibre de l'accueil. Voilà, l'autre qui est différent, et comment on porte le regard, et comment en famille on porte le regard, ça n'a pas toujours été facile. Et ben voilà, ça fait plus de 10 ans ou 15 ans qu'on accueille à la maison régulièrement.
Et alors, quelle idée vous faisiez de la diaconie avant de mieux la découvrir, peut-être?
Justement, c'était ça me semblait évident de vivre un accueil de l'autre dans sa différence, dans sa galère, comme on a entendu. Les étrangers vivent aussi des galères, et ils font partie de ces petits, de ces pauvres aujourd'hui qu'on entend à la radio, et qui cherchent un toit, qui cherchent à être régularisés, qui veulent pas vivre seuls ce parcours administratif. Et voilà comment s'est inscrit ma démarche en Église.
Ma question, c'était quel regard vous portiez sur la diaconie avant que ça fasse tilt. C'était pour vous un gros mot? Quand vous croisiez Sébastien, vous disiez...
On se connaissait très peu à l'époque. Sébastien, il était sur une paroisse voisine et il me parlait déjà des pauvres. Il mettait beaucoup l'accent sur le terme pauvre. Et pour moi, le pauvre, je ne l'imaginais pas tel qu'aujourd'hui je le vis dans mes engagements. Et donc, c'est un gros mot, la diaconie. Oui. Il y a quelques années, j'y mettais aucune définition.
Alors, qu'est-ce que vous avez compris? Puisque si j'ai compris, c'est à la faveur de l'université, c'est ça, de la diaconie de cet automne, que vous avez
entre autres,
quelque chose qui a
entre
qui a
autres, il y a surtout la rencontre de diaconie en 2013, qui a été un événement marquant, effectivement, sans mouvement. Moi, j'y étais au titre de la pastorale. Je commençais ma mission et j'ai partagé des temps forts avec des familles qui accueillaient des handicapés et qui me partageaient leurs difficultés d'être là, présent avec leurs enfants dans une célébration où on porte un regard de personnes qui gênent, puisqu'un handicapé, il peut crier, bouger, et ça perturbe dans une célébration eucharistique. Et voilà, donc j'entendais des choses que je voyais de temps en temps et qui me parler pas plus que cela, mais de voir là un groupe de 10 personnes, 10 familles qui témoignent de ça du poids, et ça change un petit peu intérieurement ma façon de regarder, de m'interroger. Et donc ça travaille l'être, ça travaille ça transforme intérieurement.
Qu'est-ce que vous avez compris de la diaconie alors?
Voilà, donc quand on a commencé à mettre une définition, que c'était aussi le service du frère, une présence en église, une parole à entendre, voilà, le service du frère. Alors là, ça a commencé à beaucoup plus résonné dans ce que je vis en famille, et puis dans mon engagement au service de la pastorale des migrants. Être au service du frère, c'est les accompagner, partager leurs galères, leurs souffrances, et comment aussi, moi, dans leur regard et le regard qu'ils portaient sur moi, on pouvait transformer mutuellement en pépites leur expérience et notre cheminement commun à la suite du Christ.
Sébastien, est-ce que vous avez un commentaire sur cette petite révélation qu'a vécu Christophe Hémeau?
Je crois qu'il y a une dimension qui est importante. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes, sûrement des personnes qui écoutent cette aujourd'hui, là, qui vivent la diaconie sans forcément le savoir, sans forcément le dire, et qui, en fait, participent aujourd'hui à la construction de l'Église de demain. Et que, finalement, cette dynamique diaconale, elle permet de rassembler ces personnes qui participent à la construction de l'Église de demain. La diaconie, c'est une dynamique vers les plus pauvres, mais c'est une dynamique aussi de construction d'une Église. Bon, l'Église, c'est une vieille dame à réformer, Jean-Paul II disait ça, et elle est toujours à réformer. Et aujourd'hui, la diaconie rentre dans ce mouvement de réformation de l'Église.
Anne-Marie Borès, donc vous faites partie aujourd'hui d'un groupe qui s'appelle Place et Paroles des Pauvres. Avant de faire partie de ce groupe, vous me disiez en préparant l'émission, il y a eu pas mal d'étapes. La première que vous pourriez citer, c'est que il y a eu un témoignage que vous avez donné à l'occasion d'une veillée organisée à l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère. C'était le 17 octobre 2014. Vous avez pu raconter un petit peu votre expérience. Dites-nous peut-être les galères que vous avez connues, les difficultés jusqu'à crier vers Dieu.
Oui, j'ai vécu dans les ténèbres pendant plusieurs années, et j'ai vécu l'inceste, j'ai vécu je m'intéressais à l'astrologie, j'ai vu des guérisseurs, j'ai même été dans une secte où j'ai connu des faux prêtres. J'ai même connu quelqu'un qui faisait du satanisme, un ami que j'avais avec moi. Et j'ai connu beaucoup de choses, et je cheminais seule, et je cheminais seule, heureusement que j'allais vers la paroisse, j'étais quand même en lien avec la paroisse, mais le regard des autres,
il était quoi ? Il était difficile,
le regard des autres ? Il était
difficile.
Pourquoi ? Il était difficile. Et
pourquoi il était difficile ? Vous vous sentiez quoi, jugé ou...
Je me sentais exclu. Je me sentais exclu. Et il a fallu que je participe au groupe Alpha. Et au groupe Alpha, j'ai quelqu'un qui a cru en moi. Et je crois que c'est l'amour qu'il a porté sur moi qui fait que ça m'a propulsé et que ça m'a fait aller de l'avant. Et puis après, il y a eu le 17 octobre où j'ai témoigné et que j'ai témoigné de ces galères et que ça m'a libéré.
Vous dites qu'aussi à cette occasion, en fait, il y a des gens qui sont venus vous voir après, qui étaient de votre paroisse, et qui ont dit, mais je ne savais pas tout ce que tu avais vécu, ça a changé leur regard sur vous,
oui,
c'est ça ?
Oui, il y a une personne qui est venue entendre mon témoignage, et qui m'a dit, je ne savais pas que tu avais vécu des choses aussi dures. Et donc...
Vous dites aussi que vous avez crié vers Dieu à un moment, et que petit à petit, Dieu, en fait, vous a envoyé... c'est ça, racontez-nous.
Des personnes. J'ai crié vers Dieu. Quand je voyais que personne ne venait chez moi, j'ai crié vers Dieu. J'ai dit, Seigneur, envoie-moi quelqu'un, parce que j'en avais trop besoin, quoi. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et donc, c'est là que Dieu m'a envoyé quelqu'un. J'avais l'impression que c'était un ange pour moi qui m'envoyait. Ça m'a beaucoup aidée. Et puis après, petit à petit... J'ai fait des pèlerinages à Pomain et...
Vous avez fait partie d'un groupe qui s'appelle Notre-Dame des Frères de la Rue.
J'ai fait partie d'un groupe qui fait partie... un groupe de Notre-Dame de Lourdes et des Frères de la Rue. Et ça m'a aidé, quoi, même si c'était pas toujours facile. Ça m'a aidé et...
Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que vous avez l'impression que vous faites partie de l'Église et que l'Église est une famille accueillante qui vous fait vraiment votre place ?
Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir ma place. J'ai pas l'impression d'être exclue.
Et vous diriez que vous avez quoi à apporter, en fait ?
Y a aussi le fait de faire partie de Place et Paroles des Pauvres qui m'a beaucoup aidée. C'est que placer parole des pauvres, ça m'a libéré la parole. Alors qu'avant, j'avais beaucoup de choses à dire, mais je l'avais à l'intérieur et je ne pouvais pas l'exprimer. Tandis que là, ça m'a aidé à aller plus loin, quoi.
Eh ben merci beaucoup Anne-Marie Borès d'être venue témoigner au micro de Vivante Église. Hélas, le temps d'émission se finit. Merci d'être venue nous parler donc de la diaconie. Deux, trois informations pour finir. Je rappelle le titre de l'ouvrage donc de Marie-Yvonne Caillot, « Comme des orpailleurs, de la misère à la pauvreté, les relations comme chemin de libération », paru aux éditions L'Harmattan. Et redites-nous deux mots de l'Assemblée.
L'Assemblée de la diaconie, c'est samedi. Tout le monde y est invité. C'est à Bazièges, salle du cardinal Saint-Denis. Liège. C'est à 10h pour ceux qui vont directement à Bazièges et c'est à 9h30 pour ceux qui veulent prendre le bus de rue Saint-Onge devant l'église du Saint-Esprit. Participation libre aux frais, repas auberge espagnole.
Voilà, et toutes les informations sur notre site internet et on ne manquera pas de l'annoncer dans Église Actualité. Et puis Christophe Hémo me fait signe me disant n'oublie pas de mentionner donc les commentaires d'évangile des migrants qui ont lieu à cette antenne en ce moment en vue de la Journée mondiale des migrants. Merci beaucoup d'être venu nous parler de la diaconie, ce trésor à redécouvrir dans l'Église. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la écouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.